de mojito. Je vais me coucher tôt.
Jeudi 29 septembre, il est 16h. Merci de choisir CILS FM 107,9. C'est parti pour une nouvelle édition du débrief. C'est Alexis Gagnon qui vous parle. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Gros menu info aujourd'hui. On commence par le commencement, les bulletins de nouvelles de notre collaborateur Denis Lépine. Je vous retrouverai tout de suite après dans 4 minutes avec la météo détaillée. On a actuellement 17 degrés sur Victoria. Ce sera suivi du bulletin des Nations Unies et de bien d'autres nouvelles, dont les nouvelles provinciales. En interview, en fin d'émission, le sujet de l'heure en Colombie-Britannique, le jugement rendu par la Cour suprême de la province dans le dossier de l'éducation en français. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec Rémi Léger, professeur de sciences politiques à l'Université Simon Fraser. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Un nouveau joueur vient d'entrer dans la danse à la succession de Stephen Harper à la tête du Parti conservateur du Canada. L'ancien président de la Chambre des communes et député de la Saskatchewan, Andrew Scheer, a rendu sa nomination officielle à Ottawa. Il a déposé les papiers d'usage et les frais d'inscription de 25 000 $. Il a dit qu'il ne pouvait laisser Justin Trudeau faire à ses enfants ce que son père a fait à sa génération. Parmi ceux et celles qui ont déposé jusqu'à présent leur candidature, notons Maxime Bernier, Tony Clement, Kelly Leach et Michael Chong. Kent Eyre a réaffirmé que le Canada appuie les membres des forces armées canadiennes libérés pour des raisons médicales. Le ministre des Anciens combattants a dit qu'il reconnaîtra et va honorer leur service pour le Canada et offrira de nouvelles possibilités de carrière aux vétérans. Il a également tenu à dire qu'il travaillera de concert avec le ministère de la Défense pour réduire la complexité, remanier la prestation des services et renforcer les partenariats. Un rapport du marché des capitaux CIBC indique que le volume des exportations du secteur manufacturier canadien a grimpé de 12 % depuis 2012. Benjamin Tall, économiste en chef adjoint à CIBC, a déclaré que les entreprises manufacturières canadiennes ont mieux réagi à la demande mondiale et aux fluctuations monétaires au cours des dernières années. Le document révèle aussi que la hausse du volume des exportations ne s'est pas encore répercutée sur la croissance du PIB et de l'emploi. Le premier ministre Justin Trudeau a présenté les 15 premiers membres du Conseil jeunesse du premier ministre. Ces jeunes âgés de 16 à 24 ans auront la possibilité de donner leur avis au premier ministre Trudeau au sujet de politiques et de programmes qui seront importants pour eux. Justin Trudeau s'est dit enthousiaste à l'idée d'inviter le Conseil jeunesse à prendre part à l'élaboration de politiques gouvernementales. Le Conseil se penchera sur des questions telles que l'emploi des jeunes, les changements climatiques et la violence fondée sur le sexe. Stéphane Dion s'est prononcé sur le travail de l'équipe d'enquête sur l'écrasement du vol MH17 de Malaysia Airlines. Le ministre des Affaires étrangères a dit que selon les constatations provisoires, il ne fait aucun doute qu'un missile Buk de fabrication russe a été tiré depuis un territoire contrôlé par les rebelles dans l'est de l'Ukraine. Le ministre Dion a mentionné que le conflit dans l'est de l'Ukraine et l'impact sur la population civile a eu des répercussions tragiques aux quatre coins du globe. Eh bien, la dernière année administrative a vu le nombre d'immigrants arrivés au Canada atteindre un niveau record. Selon les données publiées par Statistique Canada, plus de 320 000 immigrants se sont installés au Canada entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016. Il est à noter aussi qu'au 1er juillet dernier, le Canada comptait 36,2 millions d'habitants, une hausse de 1,2% sur un an, soit la plus forte hausse en près de 30 ans. Politique américaine, Donald Trump continue de dire qu'il a remporté le débat de lundi soir en raison, a-t-il précisé, des sondages qui seraient en sa faveur. Cependant, il a peur que l'homme d'affaires accumule les faussetés. Par exemple, Trump a déclaré avoir dominé le sondage CBS alors que la chaîne américaine n'a mené aucun sondage d'opinion suite au débat de lundi. Trump base également ses dires sur des résultats de sondages en ligne, sondages qui ne sont jamais compilés scientifiquement en raison de leur côté incertain. Innovation, Sciences et Développement économique Canada a confirmé que plus d'une centaine d'entreprises canadiennes tirent parti du programme de capital de risque et annoncé que le programme a réuni 1,3 milliard de dollars. Le gouvernement a précisé que les premiers résultats du plan d'action présentent une vue d'ensemble d'un programme qui adopte une démarche axée sur le marché visant à inscrire le secteur canadien du capital de risque sur la voie de la viabilité. Le développement des entreprises en démarrage et des PME fait partie du programme gouvernemental. Au sport, au hockey, le Canada pourrait remporter la Coupe du Monde ce soir avec une victoire face à Équipe Europe. Rappelons que les Canadiens ont remporté le premier match 3-1. Toujours au hockey, calendrier pré-saison dans la Ligue nationale, des victoires entre autres pour Philadelphie, Détroit et le Colorado. Baseball majeur, eh bien victoire de Baltimore 3-2 contre Toronto. Jays et Orioles mettront fin à leur série ce soir. Et course automobile, eh bien le comité de direction de la F1 a placé un astérisque pour le Grand Prix du Canada de 2017 à Montréal. La Formule 1 a fait savoir que la ville n'a pas respecté l'échéancier concernant des améliorations demandées à la piste du circuit Gilles Villeneuve. Les Grands Prix du Brésil et d'Allemagne sont également incertains en raison de problèmes financiers.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans le débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On se penche sur la météo. On a actuellement 15 degrés. Ça s'est un petit peu rafraîchi. On a 15 degrés donc au centre-ville de Victoria. Du côté du port de Victoria, c'est un petit peu plus frais. Seulement 11 degrés. Et plus près de l'aéroport, près de Sydney, on a 17 degrés actuellement. Les prévisions pour les prochaines heures, ça demeure dégagé. On aura un minimum de 8 cette nuit. Demain, vendredi 30 septembre, on atteint 16 degrés au mercure à Victoria, avec un mélange soleil-nuage. Pour la journée de samedi 1er octobre, une probabilité d'averse de 40%, un ciel nuageux et un maximum de 15. C'est à peu près identique pour dimanche 2 octobre, 30% de probabilité d'averse, un maximum de 16 degrés. Le soleil devrait revenir lundi 3 octobre avec un maximum de 16, nous prédit Environnement Canada sur le site météo.gc.ca. On retourne en info tout de suite, on écoute le bulletin des Nations Unies et on se retrouve pour les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous. Christina Silvero pour ce journal de la radio des Nations Unies. À la une, la Syrie au centre des discussions du Conseil de sécurité. En Irak, le PAM apporte une aide alimentaire à la ville libérée de Shirkat pour la première fois en 2 ans. Au nord-est du Nigeria, 750 000 personnes de plus ont besoin d'aide. L'UNICEF double son appel. En dossier, nous marquons la journée mondiale du cœur avec le docteur Étienne Krug de l'OMS. En Syrie, l'est d'Alep est à présent véritablement assiégé. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi devant le Conseil de sécurité le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires. Devant les 15, Stephen O'Brien a indiqué que dans les premiers jours qui ont suivi l'intensification des combats dans cette partie de la ville, 320 civils avaient été tués et 765 blessés. Plus de 100 enfants ont aussi perdu la vie. Le coordonnateur des secours d'urgence s'est aussi alarmé des importantes destructions provoquées par l'emploi de nouvelles bombe capable de détruire des bunkers. Stephen O'Brien a dénoncé l'inaction du Conseil de sécurité et a une nouvelle fois plaidé pour au minimum l'instauration d'une trêve humanitaire hebdomadaire de 48 heures.
On peut à présent légitimement se demander quel niveau de violence imposée au peuple syrien poussera les parties au conflit et par extension la communauté internationale à identifier une ligne rouge qui ne saurait être franchie. Soyons clairs, l'est d'Alep n'est pas au bord du précipice. Il a déjà entamé une terrible descente dans l'abîme impitoyable et implacable d'une catastrophe humanitaire sans précédent en Syrie. L'ONU n'y a eu aucun accès depuis le 7 juillet et le secteur médical de l'est d'Alep serait au bord de l'effondrement total. L'impact de la quantité limitée de vivres se fait déjà ressentir. Des décès ont déjà été signalés, des suites de malnutrition, de maladies et d'empoisonnement parmi ceux qui cherchaient de la nourriture. L'eau potable est aussi en quantité limitée et on s'attend à une augmentation imminente et dramatique de maladies hydriques et d'autres maladies mortelles évitables.
En Irak, le programme alimentaire mondial a pu, pour la première fois en 2 ans, cette semaine, livrer de l'aide dans la ville de Shirkat, à 80 km au sud de Mossoul. Cette ville était assiégée sous le contrôle de Daesh et coupée de l'accès humanitaire. Depuis 2014, la distribution de l'aide alimentaire a pu se faire grâce à la contribution importante d'aliments de l'USAID pour la paix et l'appui de Muslim Aid, ONG partenaire du PAM. Le détail avec André Vornik, porte-parole du PAM.
La ville a été donc libérée par les forces irakiennes, ce qui nous a permis d'entrer et d'apporter des vivres pour la première fois depuis plus de 2 ans, en fait, à une population qui en avait fortement besoin. Il faut savoir que les privations étaient énormes. Il y avait l'absence de nourriture, mais aussi d'eau, donc de vivres en général, une absence quasi totale d'accès aux premières nécessités. Donc on a acheminé des vivres qui consistent essentiellement en des livraisons d'huile, de farine, de blé, de pois chiches et d'autres aliments de base de la population irakienne, dans un quartier assez important de cette ville qui s'appelle Kadrania. Il y a eu énormément d'affluence, des familles entières qui sont venues chercher des vivres et nous avons pu distribuer en fait pour un mois d'aliments à plusieurs milliers de familles. Bien sûr, c'est un exercice qui devra être répété et à partir de maintenant, bien sûr, il incombe aux autorités irakiennes avec les partenaires humanitaires sur le terrain de s'assurer que les services tels la livraison d'eau, d'électricité puissent revenir dans cette ville qui a été fortement éprouvée.
750 000 personnes supplémentaires ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'a confirmé jeudi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui double son appel de financement pour venir en aide aux personnes dans le besoin. L'UNICEF souligne qu'à mesure que les zones deviennent à nouveau accessibles aux humanitaires, elles permettent de constater l'ampleur de la crise liée aux ravages de Boko Haram. Nutrition, eau potable, soins de santé, y compris des campagnes de vaccination, mais surtout en matière de nutrition. Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF à Genève.
Au nord-est du Nigeria, ces zones qui sont maintenant accessibles mettent en évidence 750 000 personnes additionnelles qui doivent maintenant avoir accès à de l'assistance, notamment beaucoup d'enfants. Il y a 400 000 enfants de moins de 5 ans qui vont souffrir de malnutrition aiguë sévère dans les 12 prochains mois, dans les 3 États au nord-est. Il y a plus de 4 millions de personnes qui sont confrontées à des graves pénuries alimentaires. Il y a 65 000 personnes qui vivent dans des conditions qui s'approchent de la famine. Vous savez, c'est un terme qu'on utilise avec précaution parce qu'il répond à des critères très spécifiques. Et surtout, lorsque vous discutez avec des responsables de la nutrition à propos du nord-est du Nigeria, ils font état d'une situation qu'ils n'ont pas vue depuis très longtemps et ils font souvent le parallèle avec la malnutrition en Somalie il y a de cela quelques années.
La mécanisation durable aurait un énorme potentiel pour l'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'indique le nouveau rapport publié ce jeudi par la FAO. La mécanisation agricole, un intrant essentiel pour les petits exploitants d'Afrique subsaharienne. Selon lui, nourrir une population mondiale en pleine expansion nécessitera des améliorations significatives en termes de productivité agricole, surtout en Afrique, et la mécanisation aurait un rôle considérable à jouer. Joseph Kiensley, ingénieur à la FAO, revient sur les bienfaits de la mécanisation pour les petits exploitants agricoles dans les pays en développement.
La mécanisation aide les petits agriculteurs à rendre leur travail plus facile. Elle réduit la charge de travail. Elle contribue à d'énormes économies de main-d'œuvre. Elle améliore la rapidité d'exécution. Elle aide les agriculteurs à faire des semis précoces, surtout avec le changement climatique. Elle contribue à raccourcir la période de récolte et aide à la commercialisation des denrées alimentaires grâce à des moyens de transport et d'espace de stockage. Ainsi, la mécanisation est en fait un catalyseur pour aider les petits exploitants à sortir de ce qu'on appelle parfois le cercle vicieux de la pauvreté. Grâce à une bonne stratégie de la mécanisation agricole durable, elle permettra de créer des perspectives et de nouveaux emplois attractifs, surtout pour les jeunes. Cela signifie que la jeunesse rurale peut regarder à nouveau à des perspectives d'avenir chez eux.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, la journée mondiale du cœur célébrée ce 29 septembre. Une journée pour rappeler que les maladies cardiovasculaires, principalement les crises cardiaques et les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, sont la première cause de mortalité au monde, avec plus de 17 millions de décès imputables chaque année. La célébration de cette journée mondiale suit d'une semaine le lancement par l'Organisation mondiale de la santé de l'initiative Cœurs mondiaux dans 12 pays pilotes. Les explications du docteur Étienne Krug, directeur de l'unité de gestion des maladies non transmissibles à l'OMS, des propos recueillis par Jérôme Longuet.
C'est une initiative qui, en fait, a pour but de s'attaquer aux maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, donc, c'est surtout les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, qui sont la cause de décès numéro un dans le monde, avec plus de 17 millions de personnes qui meurent chaque année de ces maladies. Longtemps, elles ont été considérées des maladies des pays riches. Mais en fait, ce sont les maladies de tous les pays. La grande majorité de ces décès sont dans les pays en voie de développement. Et on veut s'attaquer d'une part aux facteurs de risque et aussi améliorer la détection et le traitement. Donc on va en effet commencer dans une douzaine de pays, mais c'est un programme qui va devenir global assez rapidement parce que tous les pays en ont besoin.
Alors justement, pourquoi c'est passé des pays dits riches et des pays occidentaux aux pays en développement ?
Et il y a eu un changement de style de vie d'une part, donc la consommation de tabac, l'alimentation malsaine, surtout très salée ou grasse, contribue au problème. L'hypertension, qui très souvent n'est pas détectée dans la grande majorité des cas, et si elle n'est pas détectée, elle n'est pas traitée. Et tout ça, ce sont des facteurs de risque importants pour les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi le problème de l'inactivité physique qui est en train d'augmenter avec le poids moyen des personnes qui est en augmentation dans tous les pays du monde.
Alors les 12 pays qui vont être choisis pour être des sortes de pays pilotes pour cette initiative, est-ce qu'ils couvrent donc plusieurs continents ? Est-ce qu'on peut citer certains de ces pays ?
Tout à fait, oui, on en a pris dans tous les continents parce que, encore une fois, c'est un problème global et il y a un grand intérêt. Donc on parle de l'Éthiopie, de l'Inde, du Népal, du Nigeria, des Philippines, Barbade et la Colombie. Donc c'est des pays dans tous les continents, dans toutes les régions du monde.
Est-ce que les maladies cardiovasculaires ont longtemps été sous-estimées par rapport à d'autres maladies? Je pense notamment au cancer. Est-ce qu'il y a eu vraiment, de la part de l'OMS, une prise de conscience qu'il fallait aujourd'hui changer un peu la stratégie?
Il y a une prise de conscience, surtout parce que, d'une part, le problème est en augmentation. Il y a une grande attention de part des décisionnaires politiques dans tous les pays envers les maladies non transmissibles, comme on les appelle, qui sont justement les cancers, les maladies respiratoires, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Mais il y a eu plus d'attention envers certaines de ces maladies que d'autres. Peut-être un peu de fatalisme aussi envers les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Maintenant, ça va changer, on va s'y attaquer et on va essayer de diminuer les décès. C'est un lien très fort aussi avec les objectifs de développement durable, puisque un des objectifs est la réduction de 30% de la mortalité des maladies non transmissibles d'ici 2030.
Et c'est avec le docteur Étienne Krug que se referme ce journal de la radio des Nations Unies, à retrouver sur Internet et sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
16h17 à l'antenne de CILS FM 107,9. Vous écoutez le débrief. On va passer tout de suite aux nouvelles provinciales. On parle tout de suite du projet gazier avalisé par le gouvernement Trudeau. C'est un méga projet gazier de gaz naturel liquéfié. On a dans le journal La Presse, section affaires, un retour sur cette annonce. Le producteur malaisien d'hydrocarbures, Petronas a indiqué aujourd'hui, jeudi, qu'il souhaitait prendre connaissance des conditions fixées par le gouvernement canadien à son projet géant d'exportation de gaz liquéfié depuis la côte pacifique de la Colombie-Britannique avant de se décider à en lancer le chantier. Ottawa a donné son accord mardi à la construction d'un gazoduc et de deux terminaux pour le gaz liquéfié sur une île au nord de la province de Colombie-Britannique. Ce projet de 36 milliards de dollars canadiens au total vise à exporter du gaz canadien liquéfié par bateau vers les marchés asiatiques. Le port de départ se trouve toutefois dans une zone privilégiée pour l'habitat du saumon et est proche d'une immense réserve naturelle, ce qui a valu à l'administration de Justin Trudeau l'opprobre de l'opposition de gauche et des groupes écologistes canadiens. Le gouvernement libéral a assorti son accord de près de 200 conditions juridiquement contraignantes et établi au moyen d'une étude scientifique exhaustive selon l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Saluant l'accord conditionnel du gouvernement fédéral, Petronas a indiqué dans un communiqué qu'il allait étudier les conditions imposées par les autorités canadiennes et mener une révision complète du projet proposé avant de décider des prochaines étapes. Le projet Pacific Northwest, comme il est appelé, porte sur la construction sur l'île de Le Loup, près de Prince Rupert, 1200 km au nord de Vancouver, donc sur la construction de deux terminaux de liquéfaction de gaz d'une capacité de 6 millions de tonnes par an chacun, avec la possibilité d'en ajouter un troisième. Le gazoduc construit par l'opérateur TransCanada doit traverser d'est en ouest sur 900 km la Colombie-Britannique. Je vous reparle maintenant de la nouvelle de la semaine dans le dossier des droits linguistiques en Colombie-Britannique, l'éducation en français. Un jugement de la Cour suprême de la province est tombé, vous le savez, cette semaine. Le Conseil scolaire francophone a réitéré sa confiance envers son secrétaire trésorier, Sylvain Allison. Radio-Canada nous apprend que le Conseil scolaire francophone a réitéré sa confiance envers Sylvain Allison après que la crédibilité de celui-ci ait été mise en doute par la juge Laurel Russell dans la cause opposant le Conseil scolaire francophone et la Fédération des parents francophones à la province. Dans son jugement publié le 26 septembre dans le cadre du méga procès pour l'éducation en français, la juge Russell s'est montrée critique envers M. Allison. Dans sa décision de plus de 1600 pages, la juge consacre un paragraphe à Sylvain Allison, un témoin qui, écrit-elle, était argumentatif et non coopératif lors du contre-interrogatoire. La juge souligne que Sylvain Allison avait tendance à embellir la preuve déposée pour faire en sorte que le conseil scolaire francophone apparaisse sous un meilleur jour. À titre de secrétaire trésorier, Sylvain Allison s'occupe notamment du transport scolaire et de trouver les sites pour les écoles francophones, deux dossiers qui étaient au cœur du procès. Par voie de communiqué, la présidente du CSF, Marie-France Lapierre, a affirmé que les remarques de la juge Laurel Russell n'ébranlaient d'aucune façon la confiance de son conseil d'administration quant aux compétences de Sylvain Allison et son dévouement au conseil scolaire francophone ainsi qu'aux faits français dans toutes les régions de la province. Dans son communiqué, le CSF a également rappelé que Sylvain Allison a subi un contre-interrogatoire intense pendant 5 jours dans sa langue seconde après 17 jours d'interrogatoire. Le conseil souligne que la tâche de Sylvain Allison était difficile car il était le dernier témoin d'importance du CSF et qu'il devait faire la démonstration de faits que les autres témoins n'avaient pu prouver. Le CSF ajoute finalement que Sylvain Allison a évité à d'autres personnes, notamment à des membres du conseil d'administration du CSF, des cadres supérieurs, de témoigner. On parle maintenant du financement fédéral en santé. Un article de la presse paru aujourd'hui fait état de la flexibilité de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Alors que le Québec ne veut pas de conditions dans le nouvel accord de financement sur la santé, deux des provinces les plus importantes du pays, l'Ontario et la Colombie-Britannique, accepteraient des conditions flexibles de la part d'Ottawa. Le gouvernement Trudeau ramènera de 6 % à 3 % la hausse annuelle des transferts fédéraux en santé à partir de 2016-2017, mais propose aussi 3 milliards de dollars sur 4 ans, à condition que cet argent soit dépensé pour les soins à domicile et les soins palliatifs. La Colombie-Britannique se montre ouverte au concept d'argent ciblé en santé du gouvernement Trudeau, tant que les conditions restent très flexibles, a déclaré la province. S'il y a assez de flexibilité dans les conditions, nous n'y sommes pas opposés. Nous comprenons que le fédéral veut laisser sa marque dans des domaines qu'il estime importants. Nous n'avons pas de problème tant que les conditions ne nous lient pas les mains, a indiqué le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Terry Lake, lors d'une entrevue accordée au journal La Presse. Même son cloche du côté de l'Ontario, où la première ministre Kathleen Wynne a affirmé le week-end dernier ne pas s'opposer à des conditions dans le nouvel accord sur la santé. Ça dépendra à quel point les conditions sont serrées, a-t-elle déclaré à la CBC. Je vous mentionne aussi un article paru sur le portail de Radio-Canada concernant la disparition des bouleaux. Donc les arbres, les bouleaux dans l'ouest canadien souffrent beaucoup, notamment à cause des changements climatiques. Je vous lis quelques lignes de cet article paru sur le portail de Radio-Canada. Tandis que Ressources naturelles Canada mène une étude pour comprendre pourquoi les bouleaux meurent dans les prairies et en Colombie-Britannique, un chercheur explique que les changements rapides de climat sont en cause. L'étude sur la santé des bouleaux a commencé en 2008, permettant d'examiner plus de 300 arbres dans les centres urbains. Un des chercheurs travaillant sur cette étude, David Langor, a remarqué que les bouleaux mouraient de plus en plus rapidement depuis l'année 2003. Edmonton a par ailleurs perdu 60% de ses bouleaux depuis 2008. Si l'article vous intéresse, c'est sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. Donc, concernant cette disparition progressive des bouleaux attribués au changement climatique. Je reviens sur les affaires scolaires. Le conseil scolaire du Grand Victoria a voté pour une nouvelle politique qui vise à réduire la ségrégation fondée sur le genre dans les écoles. Donc cette nouvelle politique inclut notamment la mise en place de toilettes universelles, des toilettes neutres, donc des toilettes sans genre. L'initiative du conseil scolaire vise à favoriser l'inclusion. Désormais, peu importe l'identité sexuelle de l'élève, les toilettes sont accessibles à tous. De plus, la liste de présence des élèves ne fait plus mention du genre. D'autres conseils scolaires ailleurs, en Colombie-Britannique comme à Vancouver, ont déjà adopté des mesures similaires pour mieux soutenir les élèves transgenres. La présidente du conseil, Edith Loring Kuanga, affirme toutefois que l'initiative de Victoria dépasse celle des autres villes. Cet article se trouve sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. On fait une petite pause musicale. Je vous propose d'entendre une nouvelle pièce de Fred Fortin qui s'intitule « Oiseau ». On se retrouve dans quelques minutes pour la suite du débrief, les nouvelles du jour.
J'écoutais le chant des oiseaux. Je regarde vers le ciel. Je reconnaissais le corbeau, c'est assez universel. Qu'attends-tu au bout du poteau, devant moi qui n'a pas d'aile? T'as pas l'air de me trouver bien beau. J'ai pas de plume, juste un peu de poil. Je pourrais rester là et te fixer pendant des heures. Que tu ne
Excellente pièce de Fred Fortin dans Le Débrief. Il est 16h29. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Le Débrief se poursuit. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 30 septembre, bienvenue dans l'émission. On va passer aux nouvelles du jour. À présent, la première nouvelle concerne le climat. Les mesures qu'il faut prendre pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le journal Métro, journalmétro.com, nous apprend que des groupes environnementaux demandent à Ottawa de ne pas utiliser les différends entre les provinces au sujet d'un prix sur le carbone comme prétexte pour rester les bras croisés devant les changements climatiques. L'Institut Pembina a divulgué aujourd'hui jeudi un rapport qui fait le point sur les politiques environnementales des provinces. Les mauvais élèves sont la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, alors que l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique font meilleure figure. La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, a assuré cette semaine qu'un plan de lutte contre les gaz à effet de serre, les GES, serait prêt cet automne. Cette stratégie doit inclure un prix sur le carbone par le truchement d'une taxe ou d'une bourse du carbone, même si la Saskatchewan est très réticente à une telle idée. En présentant leur rapport en point de presse à Ottawa, des représentants de groupes écologistes ont insisté sur l'importance pour le gouvernement fédéral de ne pas se cacher derrière une éventuelle absence de consensus. Il est du ressort du fédéral de s'assurer de respecter les cibles de réduction de GES, ont-ils argué. En point de presse à Ottawa, Annie Bérubé d'Équiterre a signalé que le fédéral pouvait agir sans attendre les provinces en imposant des mesures touchant le charbon, le transport ou le bâtiment, par exemple. Le Canada vise une réduction des GES de 30% par rapport à 2005 d'ici 2030. Il s'agit de la cible fixée par les conservateurs de Stephen Harper et que les libéraux ont également adoptée cette année. Une rencontre fédérale-provinciale doit avoir lieu cet automne dans le but de parvenir à un plan d'action pour la lutte au changement climatique. Oui. Je vous parle à présent de droit du travail. Le gouvernement fédéral resserre les liens pour les licenciements massifs. Ottawa est prêt à resserrer les règles afin que les grandes entreprises sous réglementation fédérale puissent plus difficilement procéder à des licenciements massifs sans avertissement. Les exigences pour les entreprises se préparant à effectuer un licenciement collectif ont été très discrètement révisées des hauts fonctionnaires et la ministre du Travail, Marianne Mihichuk, craignant que les règles conçues pour les circonstances exceptionnelles ne soient utilisées trop souvent. La version finale des règles n'a pas encore été produite, mais leur objectif est de s'assurer que les employeurs prendront les mesures nécessaires pour aider les employés touchés par les licenciements à trouver un autre emploi et à recevoir les indemnités de départ auxquelles ils ont droit. Les règlements fédéraux sur le travail stipulent que les entreprises doivent aviser le gouvernement fédéral 16 semaines avant de licencier 50 travailleurs ou plus sur une période de 4 semaines. Pendant ce temps, les employeurs doivent également mettre sur pied un comité employé-employeur pour aider, dans la mesure du possible, les travailleurs touchés à trouver un nouvel emploi. Cet article de la presse canadienne mentionne également que cette semaine, le nouveau parti démocratique, le NPD a fait pression sur le gouvernement libéral de Justin Trudeau afin que celui-ci interdise l'utilisation des briseurs de grève pendant les conflits de travail dans les entreprises sous réglementation fédérale. Un projet de loi d'initiative parlementaire visant à interdire l'utilisation de ces travailleurs, les briseurs de grève, oui, a été rejeté en deuxième lecture mercredi soir par un vote de 217 contre 47, nous apprend la presse canadienne. Je vous mentionne rapidement, par ailleurs, que les évêques catholiques de l'Alberta et des territoires du Nord-Ouest ont transmis des directives indiquant que les prêtres devaient maintenant refuser de célébrer les funérailles de certains fidèles ayant choisi l'aide médicale à mourir. C'est sur le site de La Presse aujourd'hui, lapresse.ca. Donc, c'est une première au pays de la part de responsables de l'Église catholique. Donc, on refuserait, dans certaines circonstances, les funérailles aux défunts lorsque celui-ci aurait eu recours à l'aide médicale à mourir. Autrement, toujours dans les actualités du jour, sur le site l'actualité.com, on apprend que le Canada fournira du transport aérien aux troupes françaises en Afrique. La France est engagée en Afrique, on le sait, dans certaines opérations antiterroristes. Donc c'est une collaboration avec un allié de l'OTAN. On apprend cette nouvelle dans la presse canadienne et l'article mentionne également que le Canada cherche à déterminer dans quel pays d'Afrique il enverra jusqu'à 600 casques bleus canadiens prochainement. C'est une nouvelle qui avait été annoncée par le gouvernement un peu plus tôt cette année, mais on n'a pas encore la destination de ces 600 casques bleus en Afrique. Donc voilà, ça termine cette portion de l'émission, les nouvelles du jour. On va retourner en musique quelques minutes. On écoute les trois accords avec une pièce qui s'intitule « J'épile ton nom » et on se retrouve pour la revue de presse des éditoriaux. À tout de suite. Trois accords dans le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. Vous avez bien entendu le titre de cette pièce. C'est bien « J'épile ton nom » et non « J'épelle ton nom ». Alors, les trois accords n'en sont pas à leur premier calembour, à leur première facétie, si vous les connaissez. On va passer à la revue de presse des éditoriaux. À présent, je vous parle d'une nouvelle qui se trouve dans la lettre d'information de la Fédération professionnelle des journalistes. Ça concerne le droit à l'information. Donc, la FPJQ nous rappelle que le Canada souligne la Semaine internationale du droit à l'information actuellement. Une quarantaine de pays dont le Canada célèbre cette semaine le droit à l'information. Au Canada, des événements se tiennent dans diverses provinces pour souligner l'importance de l'accès à l'information des institutions publiques. Le commissaire à l'information du Canada, Suzanne Legault, a annoncé une série d'activités planifiées dans les prochaines semaines. Par ailleurs, au Manitoba, la ville de Winnipeg a rendu accessible plusieurs documents d'intérêt public de façon proactive dans le cadre de cette semaine spéciale. Peut-être que cela suscitera un mouvement, on l'espère, plus de transparence de la part des municipalités et des autres ordres de gouvernement partout au pays. La journée internationale du droit à l'information a été instaurée en 2002 à Sofia, en Bulgarie, lors d'une rencontre internationale sur la défense du droit à l'information. Cette journée est consacrée à la promotion du libre accès à l'information dans le monde. Une soixantaine d'organisations non gouvernementales en souligneront l'importance cette semaine un peu partout dans le monde. Je vous parle d'un entretien qui est publié sur le portail indépendant Mediapart.fr. Ça concerne la situation humanitaire catastrophique qui sévit en Syrie. Le titre de cet entretien, « La diplomatie humanitaire cache-misère de la violence extrême ». Cet entretien est mené par la rédaction de Mediapart avec deux responsables de la Fondation de Médecins sans frontières. Vous connaissez sans doute cet organisme international Médecins sans frontières, qu'on appelle souvent en anglais les French Doctors. Donc il s'agit de Michael Newman et Fabrice Weissman. Et on apprend dans cet entretien que Médecins sans frontières a été invité au briefing du Conseil de sécurité des Nations Unies pour participer aux échanges sur le droit de la guerre. Alors ça suscite des questions. Et la rédaction de Mediapart demande, est-ce que, selon vous, Médecins sans frontières doit se prononcer sur les mesures préconisées comme l'y invite le secrétaire général des Nations Unies? Réponse de Fabrice Weissman, qui est responsable de la Fondation de Médecins sans frontières. C'est un piège à plus d'un titre. Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous retrouver dans l'enceinte du Conseil de sécurité de l'ONU comme nous l'avons fait en mai dernier et comme nous nous apprêtons à le faire à nouveau pour nous exprimer sur les bombardements des structures médicales. Cette situation donne l'impression que Médecins sans frontières aspire à se retrouver à la table des puissants pour co-gérer les affaires du monde, en l'occurrence pour coproduire les normes du droit international humanitaire. À mon avis, ce n'est pas le rôle de Médecins sans frontières de participer à la définition des règles de la guerre, à la formulation d'une doctrine du bien tué ou d'une doctrine de la nécro-éthique. Je suis mal à l'aise de voir Médecins sans frontières si désireuse de collaborer avec les armées à l'élaboration de leurs règles d'engagement, c'est-à-dire de leurs procédures de tir, telles que celles définissant les conditions dans lesquelles un hôpital perd son statut de structure protégée au titre du droit international humanitaire, pardon. Un petit peu plus loin, Fabrice Weissman continue. De plus, nous n'avons pas besoin de nouvelles normes ou mécanismes juridiques pour condamner les attaques contre les hôpitaux. L'invitation au Conseil de sécurité ressemble davantage à une manœuvre de diversion qui permet d'éluder l'urgence et la difficulté diplomatique de condamner les États responsables des attaques actuellement en cours, parmi lesquelles attaques sont le fait de membres du Conseil de sécurité. Justement, nous nous focalisons sur les manières de réformer le droit de la guerre en pensant que ce colmatage du droit permettra à terme de prévenir les attaques, ce qui dans le même temps dispense les États de condamner les responsables actuels. Je pense notamment au gouvernement syrien et à ses alliés russes, au gouvernement américain et à ses alliés afghans, à la coalition internationale dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Donc, excellente entretien dans Mediapart. Le collègue de Fabrice Weissman, Michael Newman, y va lui aussi de quelques commentaires. L'épisode de violence actuelle dans la région d'Alep en Syrie, qui se traduit notamment par des bombardements d'une intensité exceptionnelle, ainsi que les manœuvres destinées à limiter la portée de l'aide humanitaire, montre bien les limites de l'exercice consistant à élaborer le droit de la guerre dans les enceintes diplomatiques comme l'ONU. Pour ma part, j'estime qu'il est inconcevable que Médecins sans frontières considère réfléchir aux normes juridiques. Le problème réside davantage dans l'impasse dans laquelle nous conduit le caractère exclusif de cette démarche si elle n'est pas associée à une dénonciation publique des responsables de ces attaques. Si nous contribuons d'une certaine manière à ces mesures, il nous faut aussi savoir saisir les occasions pour pointer du doigt et dénoncer les responsabilités spécifiques lors des bombardements ou encore les dysfonctionnements des politiques d'aide ainsi que les pressions exercées sur les acteurs de secours. L'article rappelle que le 19 septembre, donc il y a une dizaine de jours à peine, un convoi d'aide humanitaire des Nations Unies a été bombardé à l'ouest d'Alep, en Syrie, tuant ainsi une vingtaine de personnes. C'est un entretien très éclairant sur l'humanitaire, sur la diplomatie humanitaire, et c'est un entretien que Mediapart a mené avec Michael Newman et Fabrice Weissman de la Fondation Médecins sans frontières. On va se rendre dans quelques instants à l'interview du jour. Je vous le disais dès l'ouverture de l'émission, on revient aujourd'hui sur le sujet de l'heure en Colombie-Britannique, à savoir le jugement rendu cette semaine par la Cour suprême de la province dans le dossier de l'éducation en français. J'ai maintenant le plaisir de m'entretenir avec Rémi Léger, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Simon Fraser. On va le retrouver dans quelques instants. Restez à l'écoute. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Merci d'être à l'écoute du débrief, votre rendez-vous d'infos quotidien tous les jours du lundi au jeudi. Nous parlons du méga procès qui concerne l'éducation en français en Colombie-Britannique. Un jugement a été rendu par la juge Russell il y a quelques jours. Beaucoup de réactions ont été entendues. Je vous invite à écouter le professeur Rémi Léger qui enseigne sur le campus de SFU, Simon Fraser University, ici en Colombie-Britannique. On va essayer de clarifier, de démystifier un petit peu le jugement qui a été rendu. Bonjour, Monsieur Léger.
Bonjour.
Merci d'accepter l'interview. Vous êtes donc en communication depuis Vancouver. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que, selon vous, ce jugement représente une victoire pour les francophones de Colombie-Britannique?
Non, je pense que globalement, c'est un échec. Il y a des petites victoires à l'intérieur de cette décision-là, mais globalement, la décision qui a été rendue lundi dernier est un échec.
Pourquoi?
Bon, je pense que pour plusieurs raisons, mais la première raison, je dirais, c'est que la juge met de l'avant une interprétation très restrictive des droits linguistiques, dans le sens qu'elle reconnaît qu'il y a des manquements, elle reconnaît que les droits des francophones dans différentes communautés à l'échelle de la province n'ont pas été respectés. Elle reconnaît aussi qu'il y a des disparités dans les établissements scolaires si l'on compare les écoles francophones et anglophones dans différentes communautés dans la province. Mais elle nous dit, c'est plate, c'est dommage qu'il y a manquement, c'est plate, c'est dommage qu'il y a disparité, mais dans une société libre et démocratique, c'est justifié qu'il y ait des manquements, c'est justifié qu'il y ait des disparités entre francophones et anglophones. Et ça, c'est très, très décevant parce que depuis déjà 25 ans, en contexte canadien, la Cour suprême et les autres tribunaux souscrivaient, du moins avant cette décision par la juge Russell, à une interprétation qui était beaucoup plus généreuse des droits linguistiques. Et donc, je pense que c'est un recul important, cette interprétation que met de l'avant la juge Russell dans sa décision.
Donc, si on consulte la charte, on ne peut pas supposer que les disparités soient normales. La charte est quand même assez claire sur les droits linguistiques. Comment peut-on arriver à une telle conclusion?
C'est ça justement la difficulté, et c'est pour ça que la décision est très problématique, et la décision pourrait avoir des conséquences, la décision a des conséquences pour nous francophones en Colombie-Britannique, mais la décision pourrait aussi avoir des conséquences sur les francophones ailleurs au pays. Parce que les droits linguistiques sont confirmés dans la Charte canadienne, dans quelques différents articles, et les droits notamment en éducation sont confirmés à l'article 23. Et au fil des années, l'article 23 a été interprété, comme je le disais, de façon généreuse. Et ce que l'on entend par de façon généreuse, c'est que les droits linguistiques doivent mener à l'égalité réelle entre francophones et anglophones. Les droits linguistiques doivent favoriser l'épanouissement des communautés francophones à l'extérieur du Québec et la communauté anglophone au Québec. Il reste que dans la Constitution canadienne, à l'article 1 de la Constitution canadienne, on dit justement qu'on peut apporter des limites aux droits qui sont garantis dans la Charte, parce qu'on est dans une société libre et démocratique et on doit permettre au gouvernement de prendre certaines décisions. Et du coup, donc, la juge soumet nos droits linguistiques de l'article 23, elle les soumet et elle les limite, elle apporte une restriction sur la base de l'article 1. Donc, finalement, c'est un choc entre l'article 1 et l'article 23 de la Charte, et la juge vient limiter l'article 23 en s'appuyant sur l'article 1 de la Charte canadienne.
Est-ce que c'est assez nouveau comme approche de la part de la juge? Est-ce que ça avait été fait auparavant?
À ma connaissance, et je pense que j'ai lu la plupart des décisions qui se rapportent aux francophones, aux droits linguistiques, c'est la première fois qu'un juge, pas seulement en Colombie-Britannique, mais c'est la première fois en contexte canadien qu'un juge ou une juge fait ce genre d'opposition, vient restreindre la portée de l'article 23 en faisant appel à la partie 1. Et donc, du coup, c'est dangereux, je pense, c'est problématique dans notre contexte particulier, la décision que rend la juge Russell, mais à plus moyen et long terme aussi, on ne voudrait surtout pas que d'autres juges dans d'autres cours à l'échelle du pays fassent le même argumentaire, finalement, en venant restreindre l'article 23 en s'appuyant sur l'article 1 de la Charte.
Donc, article 23 de la Charte contre article 1 de la Constitution, c'est le télescopage. Est-ce que il va falloir aller se rendre à la Cour suprême pour éclaircir tout ça?
Bon, c'est ça la question. C'est la question qui tue, je pense. Il y a 30 jours pour décider. Les avocats, le conseil scolaire, la Fédération des parents ont 30 jours pour décider s'ils veulent ou non apporter la décision en appel. Dans un sens, je pense qu'on a l'obligation d'aller en appel justement parce qu'on propose une interprétation qui est très restrictive, une interprétation qui semble aller à contre-courant de l'interprétation libérale et généreuse qui avait été à laquelle souscrivait la Cour suprême du Canada et les autres tribunaux depuis déjà 25 ans. Sauf qu'il faut aussi décider si on a la bonne cause, si on a les bons témoins, si on a les bons arguments pour aller en appel. Parce que si jamais on va en appel, on prend la Cour suprême, dans 5-6 ans, la Cour suprême donne raison, continue à donner raison à la province. On vient donc confirmer cette interprétation restrictive des droits linguistiques, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour les francophones à l'échelle du pays pour des années et des années à venir.
D'accord. Quand on lit les manchettes des médias anglophones, prenons par exemple le Globe and Mail, on a l'impression que les francophones ont remporté une victoire. Est-ce que les anglophones ont une lecture différente de la situation?
Ben en fait, même dans les journaux en français, on va déclarer que c'est une victoire partielle, que c'était une décision qui était mitigée. Comme je le disais au tout début, je pense qu'il y a certaines victoires à l'intérieur de cette cause-là, de cette décision-là. C'est une décision imposante, hein, de 1600 pages.
Oui.
Mais je pense que globalement, c'est un échec. Certaines des victoires, ou ce qui est mis de l'avant comme victoire, c'est le fait qu'il va y avoir une enveloppe budgétaire distincte pour financer la construction de nouvelles écoles ou la rénovation d'écoles francophones. Donc, il va y avoir une enveloppe pour les écoles anglophones, il va y avoir une enveloppe pour les écoles francophones. Sauf que la juge ne donne pas d'échéancier, la juge non plus n'identifie pas le montant de cette enveloppe, et du coup, le conseil scolaire francophone va devoir s'asseoir avec le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique et négocier cette enveloppe. Est-ce qu'on va avoir une enveloppe l'année prochaine? Est-ce qu'on va avoir une enveloppe dans 3 ans? Est-ce qu'on va avoir une enveloppe dans 5 ans? Et aussi, surtout, quel sera le montant d'argent qui sera alloué à cette enveloppe? Tout ça, ce sont des questions qui ne sont pas répondues dans la décision, mais est-ce que, bon, finalement, on reconnaît au minimum qu'il faut qu'il y ait une enveloppe distincte. Et ça, ça a été perçu par quelques-uns comme une victoire, ou au moins une victoire partielle.
D'accord. Est-ce que d'autres communautés en situation minoritaire vont pouvoir tirer profit, tirer bénéfice de ce jugement, selon vous?
Mais comme je dis, sur cette idée d'une enveloppe distincte, possiblement, sauf que ces bénéfices doivent être contrebalancés vis-à-vis les effets néfastes qu'il pourrait y avoir. Et je pense que le fait que la juge oppose l'article 1 et l'article 23 est très problématique, et je pense que ça pourrait avoir des conséquences néfastes. Ben, ça a déjà des conséquences néfastes pour nous, parce qu'on a, je pense qu'on a perdu cette décision-là en Colombie-Britannique, mais ça pourrait aussi avoir des conséquences néfastes dans d'autres provinces si justement les juges, d'autres juges dans d'autres provinces lisent la décision de la juge Russell et disent « Ah, ben c'est une bonne idée ça, en fait, qu'on peut apporter certaines restrictions à la portée des droits linguistiques en faisant appel à l'article 1er de la Charte. »
Dans le portail de Radio-Canada hier, on apprenait que la juge Russell avait sévèrement critiqué le secrétaire trésorier du CSF, qu'elle avait qualifié de témoin non valable et non fiable. Est-ce que vous vous êtes penché sur cette question?
Oui, j'ai vu, en fait, c'est normal, en fait, dans une décision que la juge va dire quelques mots sur les témoins clés de chacune des parties, et qu'elle va commenter justement sur la validité ou la perception qu'elle a eue de la validité des témoins et des arguments et des informations qui ont été partagées par les témoins en question.
D'accord. D'accord. Elle semblait avoir pris en grippe ce témoin en particulier. On en saura peut-être davantage sur les éléments qui étaient vraiment en cause dans cette situation-là. Autrement, vous me disiez tout à l'heure que la Fédération et le CSF avaient 30 jours pour interjeter appel. Selon vous, quelles sont les chances, les probabilités d'un appel en Cour suprême?
Franchement, j'ai aucune idée sur les probabilités, mais je vous dirais que la décision ultimement revient au Conseil scolaire francophone, à la Fédération des parents et aux avocats qui ont de Jurist Power, qui ont porté le dossier devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Il reste que c'est une décision importante, je pense, pour les parents francophones en Colombie-Britannique. Je pense que c'est une décision importante d'aller en appel ou non pour l'ensemble de la communauté francophone de la Colombie-Britannique. Et j'espère, franchement, que les gens vont discuter, que les gens vont débattre, que les comités de parents dans les écoles francophones à l'échelle de la province seront consultés, vont participer à la discussion. Parce que si on va en appel, tout est sur la glace, hein? Tout est sur la glace pour, bon, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Oui. Il faut d'abord aller en cour d'appel et éventuellement, il faut se rendre en cour suprême. Donc, on parle d'un processus assez long et considérant que le processus dure déjà depuis relativement longtemps. C'est une décision qui, ultimement, va être prise par le conseil scolaire, mais je pense qu'il faut consulter notre monde. Il faut s'assurer que tout le monde est en accord que c'est la bonne chose d'aller en appel.
D'accord. Alors, moi qui ne connais pas encore très bien le système ici dans la province, on était en Cour suprême, là, n'est-ce pas? Donc, l'étape suivante, c'est la Cour suprême du Canada, non?
On était en Cour suprême de la Colombie-Britannique. La prochaine étape, c'est la Cour d'appel fédérale. Et ensuite, si jamais on perd la décision en Cour d'appel, il faut faire appel. Et éventuellement, ça rentre en Cour suprême. Donc, avant la Cour suprême, il y a une étape intermédiaire qui est la Cour d'appel.
D'accord. Rémi Léger, professeur à Simon Fraser University, grand merci d'avoir éclairé notre lanterne aujourd'hui à propos du méga procès sur l'éducation en français en Colombie-Britannique et du jugement rendu par la juge Russell. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler de ce sujet. Je sens que ça va revenir dans l'actualité.
Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense pas que l'histoire est finie.
D'accord. Un grand merci et à très bientôt, j'espère.
C'était Rémi Léger, professeur de sciences politiques à SFU. Merci à Monsieur Léger. On va maintenant conclure cette édition du débrief. Merci d'avoir passé ces 60 minutes d'information en notre compagnie à l'antenne de CILS FM 107,9 en direct ou encore en rediffusion. Le débrief fait relâche demain vendredi. On va se retrouver lundi 3 octobre et demain, en lieu et place du débrief, vous aurez Sport et Santé Magazine. D'ici là, excellente soirée et excellente fin de semaine à tous et un salut particulier à Tiffen de la Société francophone de Victoria.